Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Et après Radio Escapade, c'est 48FM qui va assurer la rédaction de ce magazine jusqu'aux fêtes de fin d'année. Au sommaire de cette édition, tout d'abord un sujet de Radio Aviva qui a contacté dernièrement Claude Gobert, le trésorier de l'UFC Que Choisir à Montpellier, qui nous fait un point sur l'opération de baisse des prix du gaz. Santé, comment lutter contre les déserts médicaux? Rémi Goujon de Radio Escapade s'intéresse au sujet avec Irène Lafont, docteur dans le village de La Salle en Cévennes, qui a peut-être une solution au problème. Ce lundi se tenait la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes décidée par les Nations Unies. En Lozère, une convention à cette occasion a été signée entre le Centre d'information du droit des femmes et des familles, la police, la gendarmerie et la préfecture pour un meilleur suivi des femmes victimes de violences. Et nous en saurons plus dans ce carnet de région. Une épicerie solidaire a ouvert il y a 2 mois à Carcassonne, une initiative mise en lumière par Éric Boyer de RCF Pays d'Aude. Enfin, tout un chacun prend l'ascenseur sans savoir que derrière, il y a tout un ensemble de normes qui ont fait chuter le nombre d'accidents depuis 2001. Maxime Triano pour Radio FM+, est allé se renseigner sur le sujet.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croustillon.
L'opération est baptisée « Gaz moins cher ensemble ». Elle a été lancée il y a quelques mois sur toute la France en vue d'obtenir d'un des nombreux fournisseurs de gaz une proposition de prix moins cher que le prix régulé. Pour cela, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a fait marcher la concurrence. La seule proposition obtenue a été celle d'un fournisseur belge qui se proposait de baisser le prix en fonction du nombre de gens que l'UFC Que Choisir réussirait à faire adhérer à son offre. Pour adhérer, il fallait s'inscrire auprès de l'association et les inscriptions sont fermées. L'association délivre maintenant les résultats de son opération. Claude Gobert, trésorier de l'UFC Que Choisir à Montpellier, nous donne ses résultats qui sont pour le moins inespérés.
142 000 personnes au niveau national se sont préinscrites pour cette démarche. Et ramené au niveau de la région, ça représente à peu près 4 000 consommateurs dans le Languedoc-Roussillon, dont la moitié dans le département de l'Hérault.
D'accord. Et ce qui représente donc au final une baisse du prix de combien ?
Et donc cette mobilisation qui a dépassé un petit peu nos espérances nous a permis d'avoir auprès de du fournisseur qui avait remporté notre appel d'offres une offre qui se traduira par un tarif qui sera de 15,5% plus bas que le tarif réglementé actuel du gaz, et accompagné d'une remise individuelle de 35 euros pour chaque facture. Donc ça représentera 185 à 195 euros d'économie pour un foyer languedocien, la variation tenant compte en fait de la zone d'alimentation en gaz.
D'accord, tout le monde pourra en profiter en France, qu'importe sa localisation ?
Alors, n'importe qui en France, je dirais, qui a un abonnement individuel au gaz, qui s'est préinscrit pourra continuer à participer à l'offre parce qu'il reste encore 2 étapes à franchir. Les personnes qui ne se sont malheureusement pas préinscrites ne peuvent pas accéder à cette offre qui ne concernera au maximum d'ailleurs que 100 000 personnes. Mais je pense pas qu'on nous atteigne, même s'il y a 140 000 préinscrits, je ne pense pas que les 140 000 souhaiteront basculer. Et donc, je pense que nous pourrons, je dirais, satisfaire toutes les demandes.
D'accord. Très
Par
bien.
Contre, dans un an, il est fort probable que nous reconduisions l'opération.
C'était Claude Gobert, le trésorier de l'Union française des consommateurs Que Choisir à Montpellier, contacté par Gilles Geoffrey de Radio Aviva. Claude Gobert nous donne rendez-vous dans un an pour une nouvelle opération du même type. Et en attendant, nous vous invitons à scruter les prix des fournisseurs de gaz, certains étant déjà bien en dessous du tarif régulé. De plus en plus, les campagnes sont désertées par les médecins et pour lutter contre ces fameux déserts médicaux, plusieurs solutions ont été évoquées comme différentes mesures économiques pour inciter les jeunes médecins à venir s'installer en milieu rural. Oui, mais parfois, cela ne suffit pas. Pour Irène Lafont, docteur dans le village de La Salle, l'avenir, ce sont les maisons de santé. Elle nous explique pourquoi.
La maison médicale, c'est pour éviter la désertification. Parce que justement, le mode actuel d'exercice, les nouveaux qui arrivent, ils ont été formés encore plus que nous au travail avec des seniors. Donc ils ont toujours quelqu'un de plus âgé auquel ils se réfèrent. Ils ont appris à se référer à quelqu'un. L'exercice solitaire en face de son patient, ça, ils ne savent plus faire. Nous avons été formés comme ça. l'évolution fait que c'est autrement et c'est sans doute bien mieux. Il n'y aura pas de désertification s'il s'ouvre des maisons médicales. Dans les autres endroits, en Lozère par exemple, ce sont les maisons médicales qui maintiennent la vie, la présence des médecins. Sinon, ils partent en retraite, personne ne vient s'installer tout seul dans un village de 400 habitants avec personne autour dans un rayon de 20 bornes. Ils veulent plus. Ils font les pôles de santé à ce moment-là, ce qui s'appelle le pôle de santé, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à un groupe, ils vont communiquer avec, il y a des confrères qui vont pouvoir venir travailler pour eux, avec eux, ou les remplacer, les soutenir. Des praticiens spécialistes viennent se déplacer chez eux. Ça maintient un tissu médical. S'il n'y a pas la maison médicale, effectivement, il y a des désertifications. La maison médicale, elle permet de maintenir et de donner envie de venir dans notre qualité de vie. On a mené tambour battant le projet. On a créé, ça demande énormément de travail de réalisation du projet de santé, c'est-à-dire à quoi va servir cette maison. C'est pas juste un regroupement des professionnels, c'est aussi une nouvelle façon de travailler. On a commencé aussi les réunions de coordination, c'est-à-dire qu'avant même que les bâtiments soient sortis de terre, on commence à travailler de façon différente. On se réunit tous les mois, pour l'instant, pour travailler entre tous les professionnels qui peuvent être là sur ce que ça va... un nouvel art d'exercer notre métier. Je pense que ça va authentifier les échanges qui se font une fois par téléphone, une fois dans la rue, une fois de par le dossier, par l'intermédiaire du dossier d'un patient, avec les autres professionnels. C'est nous donner l'occasion de partager au sujet de patients qu'on suit en même temps par différentes approches et d'avoir donc une meilleure coordination des soins, une meilleure perception de ce que vivent nos patients. Ça va identifier pour les patients un seul lieu de santé aussi. C'est-à-dire que s'ils ont un problème de pédicure, ils viennent là. S'ils ont les kinés, ils viennent là. S'ils doivent voir un médecin, ils viennent là. S'ils vont au dentiste, ils viennent là. Les prises de sang, c'est là. Et si l'infirmière qui fait une prise de sang se rend compte que le patient est trop essoufflé, elle appelle tout de suite un médecin qui est à côté. Si le médecin a un grain de beauté à faire enlever ou un patient qui s'est brûlé gravement, on demande aux infirmiers qui sont sur place de nous aider, de prendre en charge un pansement. Donc c'est une autre coordination des soins. On va se parler, on va communiquer beaucoup plus. Donc on va gagner aussi en qualité de travail et en temps de travail, parce que ça évite des coups de fil, du temps perdu, du temps pas perdu mais passé à autre chose.
Et celle du village de La Salle devrait voir le jour d'ici 2015, une interview réalisée par Rémi Goujon de Radio Escapade.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Lundi dernier avait lieu la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et à cette occasion, Lozère, Guillaume Lambert, préfet, a présenté un nouvel outil opérationnel mis en place dans le cadre d'un travail collaboratif entre le CIDFF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, les services de police et de gendarmerie et la DDCSPP, consistant à un suivi systématisé des victimes de violences conjugales ou intrafamiliale, car la Lozère n'est malheureusement pas épargnée par ces violences. Et avec ce nouvel outil, en plus de la réponse pénale, un coupon de renseignement va être remis aux femmes pour les informer de l'existence du Centre d'information du droit des femmes et des familles et de l'aide que peut leur apporter la structure. Cela va permettre, d'après Guillaume Lambert, préfet, de ne laisser aucun signalement sans réponse.
Cette convention, c'est de ne laisser aucun signalement sans réponse, hein, d'avoir de façon systématisée une activation des professionnels du Centre départemental d'information sur les droits des femmes qui puissent être mobilisés en appui des forces de l'ordre dès lors qu'ils sont amenés à rencontrer des situations susceptibles d'aboutir à des violences contre les femmes.
Un véritable plus pour les services de police et de gendarmerie. Écoutez respectivement pour la police le commandant Marie-Christine Abinal, directeur départemental de la sécurité publique adjoint, et pour la gendarmerie, Doriane Zambito, adjudante à la brigade de Marvejols.
Il faut identifier ces violences conjugales. À partir de ce moment-là, effectivement, c'est un gros soulagement de savoir qu'on va pouvoir après orienter et sensibiliser nos victimes sur la possibilité d'avoir recours au CIDF qui va prendre le relais et qui va assurer la continuité et peut-être amener la victime dans certaines situations à passer le cap du judiciaire.
La difficulté qui se posait,
c'était de pouvoir donner suite aux besoins de la victime. Il n'y a encore pas très longtemps, on n'avait pas moyen de la dévier vers quelque chose, une structure qui puisse faire qu'elle soit sécurisée, qu'elle puisse être assurée d'être suivie, d'être protégée, ce qui est maintenant le cas, parce qu'il faut prendre en compte l'aspect psychologique des choses aussi, qu'on essayait de prendre en compte, mais on n'avait pas forcément les moyens en temps et matériellement pour pouvoir le faire à bien, quoi.
Et c'est un suivi, un soutien, un accompagnement qui va être proposé par le CIDFF, Christine Chapelle, présidente de la structure.
Pour nous, le CIDIF, ça nous semble très important parce qu'en même temps, ça veut dire que la personne, elle se sentira accompagnée, encadrée, soutenue. Et ce qui veut dire que sa plainte, elle ne tombe pas là, comme disait tout à l'heure les services de police, ça ne tombe pas là comme ça, puis point final. Effectivement, c'est un suivi derrière, un soutien, un accompagnement, une écoute, et puis effectivement peut-être des solutions au cas par cas.
Voilà pour ce sujet en Lozère, réalisé par 48FM.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Alors que la campagne d'hiver des Restos du Cœur s'est ouverte lundi, une initiative carcassonnaise rejoint ceux qui ne pouvaient avoir accès à cette aide. C'est l'épicerie solidaire, ouverte il y a 2 mois. Une bénévole, Tina Delattre, s'est entretenue au téléphone avec Éric Boyer de RCF Pays d'Aude pour faire un premier bilan.
Nous en sommes à 170 personnes, c'est-à-dire 64 familles, alors qu'on avait tablé les 2 premiers mois à 10 de familles.
Le public, c'est qui ?
Alors, ce sont des travailleurs pauvres, des personnes qui travaillent, des personnes qui ont le RSA. Nous, on les prend, on étudie leurs dossiers. Il faut qu'ils aient un reste à vivre décent pour qu'ils puissent faire leurs courses tous les jours. Nous, ce n'est pas des personnes assistées, ils payent les courses. En fait, ils payent entre 10 et 30% de la valeur qu'ils pourraient acheter dans les intermarchés. On essaye vraiment de mettre les produits à la portée de tout le monde. On a l'alimentaire plus les produits d'hygiène. Le bilan est bon, les gens sont contents de pouvoir venir faire leurs courses. Ils ont l'impression d'aller dans n'importe quel magasin. Faire leurs courses et payer à la caisse. Donc, ils sont vraiment contents. Et nous, on essaye d'avoir de la diversité. Hein. On essaye. On a été, par exemple, avant-hier à Auchan, à Béziers, faire des courses qu'on revend à perte, naturellement.
Alors, donc, vous achetez dans les vrais magasins, en fait.
Hein. Eh oui. Oui, on a la banque alimentaire qui nous aide.
Hein, oui, vous allez participer à la collecte, je crois.
Oui, tout à fait. Oui, on est pris vendredi et samedi. Oui, on les aide à faire la collecte. Et ils nous aident beaucoup. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là parce que, bon, nous avons des personnes qui viennent de loin quand même, hein, de Castel. On a des personnes qui viennent de Castel. On espère que dans le département de l'Aude, un petit peu plus éloigné, à Cuxac, qui puisse accueillir les personnes autour hein, pour qu'ils n'aient pas toutes ces routes à prendre.
Avec plus de 100 millions de trajets par jour en France, l'ascenseur est le premier moyen de transport. Mais cette forte utilisation avait poussé le gouvernement, en juillet 2003, à écrire un texte demandant la mise aux normes de toutes ces machines. Jean-Luc de Tavernier est délégué général de la Fédération des ascenseurs. Au micro de Maxime Triano pour Radio FM+, il détaille la situation actuelle concernant ces appareils en Languedoc-Roussillon.
Le gouvernement avait pour charge de faire en sorte qu'effectivement les mises en sécurité se fassent en 3 périodes de 5 ans. La première période de 5 ans, elle s'achevait en juillet 2008. Elle a fait l'objet d'un report au 31 décembre 2010 et concernait les risques d'accidents les plus graves, les accidents mortels souvent. Alors je vous cite un exemple, des gaines qui sont grillagées jusqu'à une certaine hauteur, qui ne sont pas grillagées sur toute la hauteur de la gaine. Donc on a conjuré, je dirais, ce type d'accident en réalisant les travaux de la première échéance. Ils n'ont pas tous été réalisés, on estime que 95% de ces travaux ont été faits. Aujourd'hui, il y a encore des propriétaires retardataires qui commandent ces travaux et on est face à 4 à 5% de propriétaires qui résolument ne veulent pas faire. Donc il reste encore aujourd'hui un centre d'ascenseur qui présente ces risques d'accidents très graves. Pour les situer dans la région du Languedoc-Roussillon, ça représente à peu près 500 appareils. Et plus spécifiquement dans le département de l'Hérault, c'est un peu moins de 300 appareils, entre 250 et 300 appareils. La deuxième échéance de travaux devait s'achever en juillet 2013. Elle concerne les accidents les plus fréquents. À titre d'exemple, c'est la petite marche qui se forme lorsque la cabine n'est pas arrêtée parfaitement à l'étage et la personne qui bute sur cette petite marche, soit en entrant, soit en sortant de la cabine. Donc, ces travaux de la deuxième échéance, le ministère a constaté qu'ils n'étaient pas suffisamment avancés, qu'il y avait beaucoup de retardataires. Ça s'est fait à l'automne 2012, par le biais d'une enquête. Et donc, la ministre du Logement a choisi de reporter d'un an le délai de cette deuxième échéance, qui est donc aujourd'hui fixé à juillet 2014. De l'expérience qu'on a eue depuis 2003, depuis le début de la loi, on avait attiré l'attention de Madame la ministre du Logement sur le fait que si elle décidait de donner un délai supplémentaire aux retardataires, ça serait plutôt un signal de démobilisation que de mobilisation. Et dans les faits, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire que on avait retrouvé une petite dynamique dans les demandes de travaux parce qu'on approchait de l'échéance. Et puis le fait de donner un sursis, ça a tout dégonflé. Et on voit bien que les gens réagiront à nouveau à 6 mois de l'échéance. Alors, à cette différence près cette fois-ci, que tout ne pourra pas être fait pour juillet 2014. Et que, en cas d'accident, par exemple, si les gens devaient se retrouver face à un juge, le juge dira, écoutez, vous aviez 10 ans pour le faire, même 11 ans, du fait du report, et vous n'avez pas fait toute diligence pour le faire, et qui plus est, vous aviez eu un an de plus, donc vous avez tout lieu d'avoir pu faire dans les délais.
Et depuis la mise en place de la première échéance de mise aux normes des ascenseurs, le nombre d'accidents mortels a fortement diminué. En effet, entre 2001 et 2007, on comptait 27 victimes, contre 7 décès entre 2007 et aujourd'hui. Enfin, la prochaine tranche concernera la précision de l'arrêt de chaque machine, mais aussi les incidents liés à la survitesse des cabines. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'être resté à l'écoute de ce magazine, un magazine réalisé par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.